Bonjour à tous, bonjour Anne-Cécile.
Bonjour Arnaud.
Aujourd'hui, nous allons évoquer un processus d'usure des terres arides qui affecte la nature et les hommes. Nous parlerons de la désertification.
Oui, un phénomène bien connu des Sahéliens qui luttent contre l'avancée du désert et qui se battent pour un Sahel vert.
Ce projet va au-delà de la plantation des arbres parce que c'est un projet qui s'intègre dans ce que nous appelons la réhabilitation des terres dégradées. Parce que le désert vient là où les terres se dégradent. Donc, c'est cette dégradation qui favorise l'avancée du désert. Donc, nous appelons ce projet Sahel vert. C'est vrai parce que c'est le Sahel qu'on veut rendre vert. Mais en réalité, c'est un projet qui vise à guérir les terres qui sont dégradées, qui sont abîmées.
Cette catastrophe naturelle à long terme, cette usure et cet appauvrissement de la terre et de la biodiversité qui s'aggrave avec le réchauffement climatique est un des grands défis de notre époque. Pour en parler, nous recevrons Patrice Burger, le directeur de CARI, le Centre d'Action et de Réalisation Internationale, qui revient justement de Buenos Aires où se tenait la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Un dossier à découvrir tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission.
Le rôle des humains est non seulement de s'intégrer dans la nature, mais d'aider la nature à continuer.
Mais tout de suite, et c'est le jeu de cette première partie, on décortique l'actualité environnementale avec vous, Joachim Munoz, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur général de Max Havelaar, une ONG dont le principe de fonctionnement nécessite quelques explications.
Avec plaisir. Max Havelaar, donc c'est une association internationale à but non lucratif. Elle gère aujourd'hui un label international qui s'appelle label Fairtrade Max Havelaar, le label international du commerce équitable.
Alors
le commerce équitable, donc c'est quoi? Le commerce équitable, c'est des conditions avantageuses pour des populations qui vivent dans des milieux agricoles, des petits producteurs ou des travailleurs, et qui, grâce au commerce équitable, arrivent à s'en sortir. Et il y a un double engagement. L'acheteur ici fait qu'il reçoit un mieux économique, aussi une prime pour pouvoir investir dans...
Ici, vous voulez dire dans les pays du Nord.
Dans les pays du Nord, oui. Une capacité d'investir, en fait, dans le collectif, soit dans des écoles, soit même dans... faire de la production locale, plein d'activités possibles d'investissement, et également en fait tout ça dans le respect de l'environnement. C'est ça qu'on garantit avec le label international, et ça c'est clair que c'est un appel aux consommateurs de consommer autrement, de consommer commerce équitable, puisqu'aujourd'hui on est encore au début de l'aventure.
Ouais, c'est seulement quoi 1% en France des achats, c'est ça?
Alors c'est vrai qu'au global c'est petit, hein, mais déjà sur le café, ça fait depuis 20 ans qu'on travaille, on arrive quand même à des taux intéressants, puisque 7% du café arabica acheté en France aujourd'hui est labellisé Max Havelaar.
Donc, pour commencer ce tour de l'actualité, hein, c'est le jeu de cette première partie, Arnaud, il y a une bonne nouvelle qui nous vient de Norvège.
Oui, la Norvège est prête à durcir ses objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020, les faisant passer de 30 à 40% par rapport à leur niveau de 1990, a annoncé le gouvernement norvégien mercredi. Un geste fort qui s'inscrit dans le cadre de la négociation climat de Copenhague, où il est demandé à tous les États de faire des efforts pour justement diminuer les émissions de gaz à effet de serre qui sont responsables du réchauffement climatique. Un effort significatif, car la Norvège est le 5e exportateur mondial de pétrole, une énergie fossile qui contribue aussi au réchauffement climatique. Et dans cette perspective, la Norvège ambitionne déjà d'afficher un bilan neutre en carbone d'ici à 2030. Joachim Munoz, l'effort norvégien, c'est quelque chose qui vous parle ?
Je pense que c'est extrêmement important de montrer l'exemple. C'est ce que fait la Norvège aujourd'hui, et c'est vrai que ça devrait inspirer tous les pays occidentaux, et je pense que c'est en bonne voie, j'espère, en tout cas, je croise les doigts, je suis optimiste par nature. Pour autant, la Norvège aussi, c'est un super exemple de forêt préservée. Et ça, c'est un deuxième point que je voulais préciser par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, à Copenhague, un des grands points qui devrait être discuté, c'est bien de comment préserver, chose de l'activité agricole, la forêt, en évitant la déforestation, et même pourquoi pas en pensant à des nouvelles solutions de captation de CO2 en fait par les sols. Et ça, c'est des axes de travail que nous on a au niveau de Max Havelaar, extrêmement important, sachant qu'aujourd'hui dans l'agriculture en fait dans le monde, il y a bien un double aspect: nourrir la planète, puisqu'on sera quand même 9 milliards de personnes, donc en forte croissance,
tout 9 milliards en 2050.
En 2050, mmh. Exactement, tout en préservant en fait l'environnement. Et c'est là où il faut vraiment réfléchir, on va dire, en dehors de la boîte, comme on dit en anglais.
Alors, il y a des gens qui réfléchissent hein, sur le terrain. On vous propose de partir en Éthiopie maintenant, puisqu'il y a une jeune femme là-bas d'une trentaine d'années qui a créé une entreprise de fabrication de chaussures 100% respectueuse de l'environnement. C'est une initiative qui, j'imagine, va vous intéresser. Et ces produits, les produits qu'elle fabrique ont de plus en plus de succès à l'étranger. C'est un reportage de Virginie Gomez.
Assis autour d'une grande table, des hommes taillent des semelles dans des pneus de récupération. Dans une pièce adjacente, des femmes cousent avec application Devant la porte de cette maison-usine, la jeune patronne Bethléem Tilaoun Alemou supervise elle-même l'emballage des chaussures destinées à un client américain. Aux États-Unis, mais aussi en Europe, ils sont de plus en plus nombreux à craquer pour la chaussure verte made in Ethiopia, Bethléem Tilaoun Alemou.
So we're collecting these tires, so cutting them,
nous collectons les vieux pneus, nous les découpons, les mettons en forme et les utilisons pour les semelles. Nous participons ainsi au nettoyage de notre pays et comme vous le voyez autour de vous, toute la production est zéro carbone.
Pour fabriquer les saules rebelles, ce traduction semelles rebelles, on utilise du coton local et des matériaux de recyclage, mais surtout on emploie les compétences d'une quarantaine de personnes qui travaillent tout à la main, ce que Bethléem appelle l'héritage vert de l'Éthiopie.
Moi et ma famille, nous avons grandi dans cette communauté. Chaque jour, j'ai vu les gens d'ici lutter pour survivre sans avoir aucune opportunité de travail. Je savais qu'ils avaient pourtant des compétences en broderie, en couture ou pour créer des motifs originaux. Ici, nous utilisons ces compétences en formant les ouvriers spécialement pour faire des chaussures et c'est grâce à leur dur travail que Soul Rebel se développe.
Membre de la Fédération internationale du commerce équitable, l'entreprise bénéficie de son réseau. Bethléem utilise Internet pour se faire connaître. Elle tire également parti des accords commerciaux avec les États-Unis qui lui permettent d'importer ses produits sans taxes sur le sol américain. Mais l'ingrédient secret de sa réussite, c'est un traitement 4 étoiles de ses employés. Pas à pas, l'entreprise gagne des marchés. Pour Bethléem Tilaoun Alemou, rien ne sert de courir, il faut tenir le rythme et la qualité, une philosophie digne du pays des marathoniens.
Alors Jean-Kim Munoz, on voit bien à travers cet exemple que produire en respectant l'environnement dans les pays du Sud, c'est un plus pour avoir des débouchés au Nord.
Très clair, c'est un engagement très fort, on le voit là, dans une notion d'ailleurs d'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on passe d'une consommation, de commencer de zéro, d'exploiter on va dire la nature, à une notion en fait de je recycle et je réutilise en fait ce qui a déjà été utilisé, et ça je pense que c'est vrai que c'est l'avenir. On voit bien aussi que c'est avec un double composant. Un composant social et une juste rémunération.
Puisque là, les salariés sont bien traités.
Exactement, et avec justement intégré dans WFTO, qui est le réseau de l'artisanat équitable en fait dans le monde. Et donc là aussi, avec un double pendant, c'est-à-dire un engagement sur l'environnement de la part des producteurs, de celle qui fait la chaussure, avec de la part en fait des acheteurs ici, en fait en Europe, par exemple en France, quand on achète la chaussure, aussi une juste rémunération à cette productrice.
Est-ce que vous pourriez commercialiser Soul Rebel ?
Alors nous, on ne labellise pas en fait les chaussures, ni non plus l'artisanat. Mais aujourd'hui, il existe des réseaux spécialisés, par exemple les boutiques Artisans du Monde ou le groupe SOS, en fait, qui sont dans cette mouvance du commerce équitable, donc des boutiques qui sont dédiées à ça et qui commercialisent. Alors, je ne sais pas si c'est concrètement cette chaussure, mais je sais qu'ils ont des articles dans ce sens.
Et c'est le moment de s'intéresser à l'actualité environnementale d'une région du monde. Aujourd'hui, on part en Asie.
Bonjour Georges Jabou.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Alors, l'actualité de l'environnement en Asie, eh bien, c'est à Bangkok que ça se passe. Plus de 180 pays sont réunis en préparation du sommet de Copenhague avec cette grande question, quelle suite donner au protocole de Kyoto ?
Eh bien, de façon générale, la négociation semble relancée, mais la route est évidemment très longue. Il y a de grands pays comme la Chine et l'Inde qui freinent des quatre fers avant de s'engager sur des objectifs chiffrés de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Le progrès, on sait bien que c'est sale, le développement, ça pollue, et il n'y a pas de raison que les pays émergents n'en passent pas par là où sont passés les pays développés, c'est-à-dire par une phase intensive d'industrialisation. Donc, pour nous résumer, en tout début de semaine à Bangkok, les représentants chinois ont poussé un coup de gueule. Ils accusent, c'est pas récent, mais ils l'ont réaffirmé, ils accusent les pays riches de leur mettre la pression et de vouloir changer les règles du jeu. Alors face à des pays comme le Japon, l'Australie, le Canada qui se déclarent prêts à adopter un nouveau traité lors de la réunion de Copenhague au mois de décembre, eh bien les Chinois s'insurgent. D'accord pour amender Kyoto, mais pas question d'adopter un nouveau protocole. Les pays du Nord sont historiquement responsables de la pollution de l'atmosphère. En conséquence, eh bien, ils doivent poursuivre leurs efforts avant d'envisager de soumettre les pays émergents, comme la Chine évidemment, à de nouvelles contraintes. Ça, c'est le discours officiel. Alors après, la Chine va bien entendu négocier à la dure, mais en coulisses, parce qu'il y a la coulisse, la résistance des Chinois semble s'émousser. Le gouvernement serait même en train de travailler sur un document qui fixerait des objectifs à l'horizon 2020 afin de réduire à long terme les émissions de gaz carbonique de son intense activité industrielle. Les Chinois auraient notamment été sensibles à la position affichée par la nouvelle administration américaine, qui manifeste une plus grande sensibilité, une plus grande responsabilité peut-être même que la précédente, celle de George Bush, au moins au niveau des déclarations d'intention, évidemment.
En Inde, est-ce qu'on peut s'attendre à un geste ? Enfin, pour l'Inde, est-ce qu'on peut s'attendre à un geste ?
Pour le moment, c'est à peu près du même tabac. Hein. Les Indiens paraissent inflexibles. Ils se méfient des pays du Nord, suspects évidemment de vouloir se soustraire à leurs engagements en changeant d'outils, c'est-à-dire en passant du protocole de Kyoto au protocole de Copenhague. Les Indiens disent que le protocole de Kyoto ne cessera pas d'exister en 2012, même si à côté, les Indiens travaillent également sur des objectifs chiffrés. Il y a donc tout un marchandage en coulisses, comme pour la Chine, comme on l'a vu tout à l'heure. Les Indiens comptent sur des aides financières, des transferts de technologies, en échange d'un effort accru de leur part sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre.
Joachim Munoz, sur justement cette position là, de la Chine, de l'Inde, là, les pays émergents.
Je comprends totalement. Je reviens justement du Mexique. La même question se pose au Mexique à un moment donné, c'est-à-dire de comment on, collectivement en fait on aborde la question, mais en faisant aussi faire payer ceux qui aujourd'hui polluent fortement, et c'est à deux tiers en fait les pays occidentaux par rapport à des pays du Sud qui vont quand même à 80% subir les effets du réchauffement climatique. Et dans ce sens, c'est vrai que il y a besoin de créer la confiance, et aujourd'hui malheureusement on sent que les leaders, en particulier les États-Unis en fait, n'envoient pas de message suffisamment fort pour que les pays du Sud soient en confiance. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, quand même, Kyoto a quand même des limites. Je le disais tout à l'heure sur la déforestation, sur la captation de CO2. Aujourd'hui, l'agriculture, la déforestation, en fait, c'est 30% des gaz à effet de serre. Or, il faut trouver des mécanismes justement institutionnels dans un cadre, en fait, un traité international pour arriver à préserver et à trouver donc des moyens financiers pour rémunérer par exemple des producteurs s'ils ne déforestent pas, s'ils arrivent à capter du CO2 dans les sols. Et ça n'existe pas aujourd'hui dans Kyoto, donc il faut quand même revoir l'outil, je pense.
Dernière information, Georges, en Afghanistan, cette fois, les Russes ont leur petite idée sur la manière d'éradiquer les champs d'opium.
Oui, une petite idée même très très radicale, puisqu'ils prônent la solution de l'épandage d'herbicides. C'est le chef du service antidrogue russe, Viktor Ivanov, qui préconise cette méthode. Alors, il appelle les États-Unis à répandre des herbicides par avion sur les champs d'opium en Afghanistan, et il critique vigoureusement la stratégie employée jusque-là par les Américains. L'envoyé spécial américain en Afghanistan et au Pakistan, Richard Holbrooke, a récemment indiqué qu'il renonçait évidemment à cette solution. Il estime qu'il ne faut pas faire en Afghanistan comme on a fait en Colombie, parce que, évidemment, eh bien, ça pousserait les populations dans les bras des talibans. Ivanov, le russe, lui, insiste. Ça donne l'impression aux barons de la drogue que leurs champs sont intouchables, dit-il. Et il ajoute, moi, j'ai soulevé la question et on m'a promis d'étudier. Il faut dire que les Russes et l'Afghanistan, c'est une longue histoire qui se poursuit dans la mesure où 90% des cas de toxicomanie en Russie sont, paraît-il, liées aux drogues en provenance d'Afghanistan.
Merci, Georges Abou.
C'est pas du vent, @rfi.fr.
Joachim Munoz, vous vouliez peut-être réagir
très rapidement
à ce...
Oui. Par rapport à ce que vous disiez sur l'éradication de la drogue, c'est vrai que moi j'ai des expériences même personnelles d'avoir vu en fait au Pérou des programmes pour faire qu'on passe de champs de coca à des champs de produits d'exportation comme le cacao ou le café, et ça marche en fait. Sauf qu'aujourd'hui, il faut quand même réfléchir à justement une juste rémunération, et que éradiquer en fait en épandant des pesticides, ça a aussi un double effet. C'est-à-dire que c'est un effet aussi de réduire la quantité de produits, et souvent, ça malheureusement l'effet contraire, c'est-à-dire que c'est encore plus intéressant de produire par exemple de la coca ou de l'opium. Donc là,
et puis c'est dangereux quand même au passage pour la santé des populations, la biodiversité.
Très clairement, et même pour la santé même des propres producteurs qui sont hors la loi. Or quand on est hors la loi, c'est la loi de la jungle. Hein.
Alors, Joachim Munoz, vous êtes directeur général de Max Havelaar France. Hein, c'est une organisation non gouvernementale dont le label est aujourd'hui présent sur plus de 2000 produits qui vont du gin au café. Comment est née cette aventure et qu'est-ce qui préside aujourd'hui à cette démarche?
L'aventure est née il y a 20 ans, justement, au Mexique, des producteurs de café qui étaient justement aidés par la coopération internationale. On dit, c'est bien évident de recevoir un don pour acheter un camion de temps en temps, mais ça serait encore mieux d'avoir une juste rémunération de notre travail. Donc, et ça, c'est l'esprit aujourd'hui du commerce équitable, c'est-à-dire s'être guidé à justement rémunérer la labeur, en fait, les engagements que peuvent prendre aujourd'hui les familles agricoles qui bénéficient du commerce équitable. Et je disais, les engagements, c'est sur un prix minimum garanti, sur une prime d'investissement social ou collectif, en fait, qui fait qu'il y a plus de cohésion sociale et qu'en contrepartie, on peut exiger justement des engagements sur le respect de l'environnement.
Les produits Max Havelaar, il y en a des centaines hein, qui sont distribués souvent en grande surface. Il y a beaucoup de produits qui sont estampillés commerce équitable avec beaucoup de marques, beaucoup de labels. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver en tant que consommateur?
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un boom autour de la consommation durable. Non, mais c'est vrai, et c'est tant mieux d'ailleurs.
C'est un peu compliqué.
Et c'est pas que dans le commerce équitable, je pense que c'est dans l'ensemble de la consommation durable. Aujourd'hui, vous avez pour les ampoules, pour les voitures, pour plein de choses, en fait, vous avez des signes de garantie comme le label Max Havelaar. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire aussi, je pense, des pouvoirs publics pour aussi envoyer des signaux, pour reconnaître, en fait, ceux qui vraiment tirent vers le haut les pratiques de peut-être label qui peut être un peu moins fiable.
Oui,
en tout cas, par rapport à Max Havelaar, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est 20 ans de travail, c'est une garantie, c'est même des résultats par rapport à ce qu'on a fait, parce qu'avec 20 ans d'expérience, maintenant, on peut voir ce qui s'est passé sur le terrain, et aujourd'hui, ça marche. Et c'est vrai que si je suis consommateur et que je consomme un produit labellisé Max Havelaar, que des fois, je paye 10% plus cher le produit, en contrepartie, c'est quand même un avantage énorme, en fait, par rapport aux familles agricoles, mais surtout un engagement par rapport au respect de l'environnement, ce qui est aujourd'hui un des gros enjeux pour les prochaines 50 années au moins.
Oui, parce qu'il y a tellement de ruses marketing, il y a tellement de greenwashing. Enfin, aujourd'hui, quand on nous dit, regardez, ce produit est beaucoup plus intéressant pour telle et telle raison.
C'est vrai.
Pas toujours.
Il peut y avoir un risque de fair washing. Aujourd'hui, on pourrait dire ça, oui. C'est vrai que d'annoncer dans une pub, en fait, qu'on fait du social alors qu'on a d'autres types d'engagement. Et c'est vrai qu'il faut être extrêmement vigilant parce que le consommateur ne s'y retrouve pas. Et ça, il faut bien le marteler. Et d'ailleurs, je félicite en fait des émissions comme la vôtre, quotidienne. Merci. Parce qu'il faut vraiment faire de la didactique aujourd'hui par rapport aux consommateurs. Il faut agir. La consommation, pour moi, est un des meilleurs axes, en fait, d'action.
Justement, vous intervenez sur tous les continents. Comment est-ce que vous, pour que les auditeurs comprennent bien, comment vous choisissez un partenaire? Comment se passe la rencontre?
Alors, la rencontre, elle commence déjà par une marque ici, en fait, hein, par exemple en France. Et aujourd'hui, on a 200 marques, en fait, qui travaillent avec nous pour 2000 produits. C'est vrai qu'ils rentrent dans le système, entre guillemets, en achetant, donc, aux conditions du commerce équitable, à des communautés agricoles dans les pays en développement. Aujourd'hui, donc, c'est plus même de 80 pays qui exportent en Afrique, Asie, Amérique latine. Et ce, sur 18 ingrédients différents, du café, mais jusqu'à aujourd'hui, même le coton en non-alimentaire, des cosmétiques, d'autres produits comme cela. Et c'est vrai que pour faire la rencontre, nous, on valide, on va dire, on qualifie autant la communauté agricole au sud que la marque ici en France.
Et donc les partenaires sur le terrain, vous allez à leur rencontre, vous suivez au quotidien.
Bien
on peut
sûr.
Savoir, par exemple, si on achète une marque de café, on va sur votre site internet et on sait à qui ont profité ces 10% de prix supplémentaires.
Aujourd'hui, un contrôle indépendant en fait est fiable, qui est fait par une structure internationale qui s'appelle Flocert, qui garantit bien en fait et contrôle bien les standards internationaux en fait Max Havelaar Fairtrade.
Merci beaucoup Joachim Munoz d'être passé dans C'est pas du vent. Vous avez écrit un livre, Commerce équitable, 20 réponses pour agir. C'est publié chez Michalon.
On se retrouve juste après un bref rappel de l'actualité pour parler de désertification. A tout de suite.